Radio Bulle et Patrice Javel vous font voyager. La porte des étoiles.
Chers auditeurs de Radio Bulle, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle émission proposée par Patrice Javel. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Initiateur d'un rendez-vous associant la science et la gastronomie lors de rendez-vous ponctuels sur Agen, un restaurant.
Oui.
On saura ça un peu plus tard, ce sera la surprise. Nous ne manquerons pas d'en parler de toute façon. Alors, vous connaissez déjà Patrice, car nous avons eu le plaisir de l'accueillir lors de la présentation de ses repas, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site. Mais aujourd'hui, parlons de science, et plus particulièrement de cette énigme qu'est l'univers. Alors, première question, l'univers, d'où vient-il ?
L'univers, d'où vient-il ? Alors, c'est une grande question parce que on a longtemps fait des recherches là-dessus depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge. Des chercheurs ont déjà, comme Kepler par exemple, cherché des réponses à savoir déjà pourquoi et comment la Terre tournait autour du Soleil, puisque c'est à l'époque qu'on pensait que la Terre était le centre de l'univers et
oui,
que
c'est le Soleil qui tournait.
Et que le Soleil tournait autour de la Terre, alors que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc déjà, effectivement, c'est une grande recherche qui remonte aux temps anciens, je dirais. Voilà.
Puis rien que de voir la nuit, le ciel étoilé, c'est, évidemment, ça pose des questions.
Tout à fait, exactement. Alors, d'où vient l'univers ? Ben, aujourd'hui, on peut dire avec presque certitude qu'on a eu un commencement et il y aura une fin. C'est comme toute chose, il y a une naissance, il y a une mort. L'univers est vivant. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un commencement. Alors, il y a deux théories qui s'affrontent aujourd'hui qui sont très intéressantes. Il y a la théorie du Big Bang standard, une création et un univers qui enfle et qui grandit, et les mondes Brainer qui sont des univers sandwich. Vous prenez des tranches de pain de mie, vous y mettez des légumes entre eux, ça représente les espaces vides entre, et les tranches de pain de mie, ça représente les différents univers. Alors, ces deux univers se télescopent tous les 1000 ou 2000 milliards d'années et recréent, en se télescopant, deux univers. Un univers dans le monde parallèle dans lequel nous sommes et un univers dans l'autre monde. Alors, c'est très curieux parce que c'est une théorie qui n'est pas très ancienne et elle est prise très au sérieux. Après, on a...
Oui, parce qu'on parlait jusqu'à présent essentiellement du Big Bang.
Oui, alors le Big Bang, ça peut être plusieurs choses en fait. Ça peut être ou les mondes Brainer, ou ça peut être éventuellement la création d'un univers à partir de quelque chose. Et on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui a créé l'univers. Ça, c'est le mystère complet. C'est-à-dire qu'on a des réponses à savoir après... tant de secondes, qu'est-ce qui s'est passé et comment s'est déroulée l'évolution de l'univers, mais on ne sait pas qui est à l'origine. Alors, est-ce que c'est une source divine ? On le pense, et beaucoup de scientifiques le pensent aujourd'hui, que c'est une source divine parce que tout est basé sur des calculs mathématiques, c'est-à-dire que tout est engendré et tout est parfaitement dans un engrenage qui montre que l'univers a un mécanisme bien précis, bien réglé, et que sans ce réglage, l'univers ne pourrait pas exister tel que nous le connaissons.
Les mathématiques avec le divin.
Tout à fait. Mais vous savez, après tout, une super intelligence pourrait effectivement créer un univers. C'est-à-dire que ce sont des connaissances qui nous dépassent complètement parce qu'on en est. On est incapable de faire la même chose. Nous, on est des petits cerveaux humains sur la Terre et on essaye de comprendre comment fonctionne l'univers. Mais à l'échelle, je dirais, de l'univers, il y a peut-être des civilisations qui existent, qui ont une avance technologique capable de comprendre ce genre de choses.
Donc avant, si j'ai bien compris, avant cet univers dans lequel nous vivons, il y avait un autre univers où éventuellement il y a d'autres univers parallèles.
Alors... oui, c'est-à-dire qu'il y a deux théories, la théorie des mondes Brainer et la théorie du Big Bang avec le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est comme une particule plus petite qu'un atome. Et tout l'univers était contenu dans cette en sous forme d'énergie, pas sous forme de matière. Parce que comprimer tout l'univers dans une petite particule plus petite qu'un atome, c'est impossible. Donc on transforme tout ça en énergie. L'énergie est gigantesque et colossale. On a le Big Bang. Et après, l'univers, effectivement, grandit, se dilate, refroidit et fabrique tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les étoiles et les galaxies.
Mais cette petite particule d'énergie, elle vient d'où, elle ?
Et ça, on ne sait pas. Voilà,
c'est là où
on bute. Et les frères Bogdanov ont écrit un livre là-dessus en disant avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait ? Moi, je ne l'ai jamais lu. Il faudrait que je le lise. C'est une approche.
Ils sont assez décriés,
oui,
les
mais
frères
alors,
Bogdanov.
Oui, mais c'est une approche très philosophique. C'est-à-dire que scientifiquement, on n'a pas de preuves, pas de calculs, rien. Aucun acte mathématique, aucun calcul mathématique avant. Parce qu'on est incapable de savoir ce qu'il y avait avant. Donc, c'est de la philosophie. C'est-à-dire qu'on va engendrer des idées qui pourraient rejoindre le divin ou autre chose. Voilà.
Effectivement. Alors, on sait approximativement, vous venez de nous l'expliquer, d'où vient cet univers. Maintenant, comment l'univers s'est-il créé à partir de cette particule d'énergie ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, on a effectivement le moment du Big Bang. L'univers se crée, explose dans une explosion, je dirais, gigantesque, délivre toute son énergie. Et d'un seul coup, on se dilate. L'univers grandit, se refroidit. Et effectivement, on a d'abord la séparation des quatre forces qui sont diluées dans une seule et même force, une seule et même énergie. C'est la force de gravité que l'on connaît. Newton qui regarde la pomme tomber et qui se pose la question de savoir pourquoi la pomme tombe. Ça, c'est la gravité.
Moi, je pense automatiquement à Gottlieb dans ces cas-là.
Newton, c'est vrai que c'est une référence aussi. Voilà. Donc, on a la gravité, on a la séparation de la force forte, qui est la force de cohésion des noyaux protons et neutrons, qui permet d'assembler les noyaux. Et cette force forte se sépare de la force électrofaible, qui est la force électromagnétique mélangée à la force faible. La force faible se sépare ensuite de la force électromagnétique, et la force électromagnétique, tout le monde sait ce que c'est la lumière qui nous éclaire, du soleil, les lampes qui s'éclairent, c'est de l'énergie électromagnétique lumineuse. Voilà. Et après, on a la force faible qui est la force qui régit les interactions nucléaires dans les étoiles. Voilà. Donc on a la séparation de ces quatre forces d'abord, et puis après l'univers grandit, se dilate. On a effectivement un processus qui fait que, comme l'univers grandit et se dilate, on a les protons, les neutrons, on va rentrer un peu dans les détails en expliquant bien. Les protons et les neutrons sont formés de petites particules qui s'appellent des quarks. Les quarks s'assemblent comme des Legos par trois, et en s'assemblant forment les protons et les neutrons. Oui. Ensuite, on a la formation de noyaux protons-neutrons. Et on a l'univers qui, ensuite, en continuant à se dilater, à se refroidir, fabrique autre chose. C'est-à-dire qu'on a de l'antimatière et de la matière. Par exemple, on prend un électron, on a le positron. C'est l'inverse de l'électron. Toute particule dans l'univers a son antiparticule. Elles s'annihilent, toutes ces particules. Elles s'éliminent, elles explosent, elles disparaissent. Il reste un tout petit peu de matière. Et c'est le tout petit peu de matière qui reste qui formera l'univers que l'on connaît aujourd'hui.
Donc, au départ, il n'y a que de l'énergie, et cette énergie va créer de la matière.
Voilà, c'est ça. C'est à partir du processus de l'équation d'Albert Einstein que l'on connaît bien, E égale MC2, voilà, qui dit énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, si on a une masse, je dirais, colossale, celle de l'univers, multipliée par la vitesse de la lumière au carré, ça fait une énergie colossale. C'est gigantesque.
Oui, je viens l'admettre.
Voilà.
Il suffit de regarder notre ciel pour le comprendre.
Voilà.
Alors, cette énergie devient de la matière, et cette matière, va en quelque sorte se répandre dans quoi ? Dans un espace ?
Alors, l'univers, c'est l'espace, c'est pas du vide. Tout le monde dit l'espace, c'est rien, il y a du vide, il n'y a rien dans l'espace. Non, le vide n'existe pas. Si le vide existait, il n'y aurait pas d'univers. C'est un tissu, comme un tissu, qui se tend, qui se détend, qui se contracte. Et en se dilatant, ce tissu qui contient l'univers s'étend, se répand, et les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais c'est le tissu, c'est comme un pudding. Vous prenez un pudding avec des raisins, c'est le pudding qui gonfle et les raisins qui continuent à grandir avec le pudding. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est le tissu qui grandit et les galaxies s'éloignent les unes des autres dans ce tissu qui s'étire. Et ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent, c'est le tissu qui s'étire. Voilà, voilà la différence.
Alors l'univers, reprenons cette image du tissu. Visualisons ce tissu. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce tissu ?
Alors, on ne sait pas, voilà. Là, c'est la grande question. C'est-à-dire que si c'est un tissu, qu'est-ce qui contient ce tissu ? Voilà. Alors, on a la théorie des univers bulles, c'est-à-dire des univers qui grossissent, qui sont contenus dans quelque chose qu'on ne connaît pas et qui communiquent entre eux par des interactions, des tunnels qui permettent de passer d'un univers à un autre. On a cette théorie-là, mais on est dans la grande question de savoir qu'est-ce que c'est. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a jamais été voir, donc on n'a pas de réponse.
Et on n'est pas prêt, je pense, d'aller voir.
Ben, disons qu'il faudrait pouvoir voyager très vite, sur de très grandes distances, ce qui, à l'heure actuelle, est impossible.
Ouais. Très bien. On va faire une petite pause musicale et on va reprendre cette conversation passionnante. Merci.
Quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
con le dita
attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e
vivo per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pause, note, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Vous nous avez expliqué d'où venait cet univers. Mais maintenant, comment l'univers s'est réellement créé? Quelles sont les étapes de cette formation?
Alors,
cette
étapes, on les a expliquées quand je vous ai expliqué la formation des noyaux, hein, des quarks, etc. Alors, ça continue, c'est-à-dire que l'univers continue à se refroidir, à se dilater après la pression, je dirais.
On était arrivé aux nébuleuses, là, à peu près.
Voilà, on était au moment où les noyaux se forment. Après, les noyaux se forment, c'est-à-dire que les protons et les neutrons rentrent en collision, forment de l'hélium et de l'hydrogène, les deux éléments qui sont responsables de la formation des étoiles dans l'univers. Voilà, on grossit, on refroidit, on forme les protons, les neutrons, ensuite on forme les premiers noyaux atomiques, et après l'univers refroidit. Et pendant 380 000 ans, il va refroidir. Il refroidit pendant 380 000 ans.
On sait, c'est le chiffre réel, 380 000
ben,
ans.
Disons que quand on remonte avec les télescopes à la naissance de l'univers, qu'on observe l'univers, on arrive à cette date-là, puisqu'on remonte dans le temps en regardant les étoiles. Puisque la lumière nous arrive après, donc voilà.
Ouais.
Donc on est à peu près sûr de ce chiffre. Après, on peut très bien se tromper, mais je pense pas. Je pense qu'il y a des calculs très précis qui sont faits et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, l'univers arrive à ce stade où on a une sorte de plasma, on appelle ça, où on a des particules, des électrons, des protons, des neutrons qui vont dans tous les sens. Et puis, quand l'univers refroidit suffisamment, 380 000 ans après la naissance de l'univers, les électrons sont capturés par les protons et les neutrons, tournent autour et fabriquent la première matière que nous connaissons, l'hydrogène et l'hélium, qui vont ensuite se combiner avec des endroits dans ce plasma qui seront plus ou moins denses. Et cette densité va attirer de la matière, former les premières étoiles et ensuite former les premières galaxies. Et après, l'univers grandit, on arrive à la formation du système solaire, etc. Et aujourd'hui, on est dans le stade où nous, humains, on regarde cet univers et on se pose la question, mais comment tout ça existe et comment tout ça est né. Voilà.
Comment est-on sûr qu'il y a eu une création au sens structurel du terme, et que l'univers n'est pas là plutôt comme un merveilleux petit hasard, enfin, mais en l'occurrence énorme
hasard. Il peut y avoir un hasard où on n'aurait qu'un univers qui existerait sur de multiples univers qui existeraient, qui seraient des mondes parallèles et qui n'auraient pas de structure, parce que ce serait tellement un hasard, je dirais, extraordinaire, que tout soit bien réglé comme une horloge pour que l'univers que nous connaissons existe, qu'effectivement, on pourrait penser à ce moment-là qu'on est les seuls, que la vie est unique sur la Terre, parce qu'on a eu de multiples hasards miraculeux, on arrive à la vie que l'on connaît sur Terre et à l'espace que l'on connaît dans l'univers avec les nébuleuses de gaz, les galaxies, les étoiles. On pourrait penser ça, mais ça fait beaucoup de hasards.
Oui,
accumulons les hasards, ça fait beaucoup de choses quand même.
Et puis tout à l'heure, on parlait de mathématiques, donc le hasard n'est pas associé à...
Bah, disons que les quatre forces sont tellement bien réglées, tellement bien agencées les unes par rapport aux autres, qu'elles fabriquent, je dirais sur le plan atomique, la structure de l'univers. La gravité est bien réglée pour que justement les astres s'attirent les uns les autres, mais pas trop non plus. Ensuite, ce sont les vitesses des planètes qui gravitent autour, qui s'élouent, qui empêchent la gravité de les attirer, de les faire s'écraser, je dirais, sur l'étoile autour de laquelle elles tournent, etc. On a la force faible qui est bien réglée, la force forte qui est suffisamment bien réglée pour que les noyaux soient soudés les uns aux autres, mais puissent en même temps créer des réactions thermonucléaires quand ils se séparent. On a en fait une horloge, un mécanisme bien huilé qui fait que c'est tellement bien huilé qu'effectivement on écarte le hasard et on dit il y a une source divine derrière, il y a quelque chose d'intelligent et qui aurait déposé quelque chose pour créer cette explosion. Maintenant, s'il y a un Big Bang, il y a aussi une fin d'univers. Donc on peut imaginer que l'univers se recroqueville sur lui-même. On appelle ça un Big Crunch. Et le Big Bang renaît à nouveau et l'univers se répand à nouveau, etc. Et sans arrêt comme ça. Si bien qu'il n'y a jamais de fin, effectivement, on peut penser ça aussi.
Jamais de fin, si ce n'est un renouveau. Est-ce qu'on a fait le tour là, de la question sur l'univers ?
Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? On peut rentrer dans les détails, dire plein de détails techniques, mais après c'est très embêtant parce que je pense que les auditeurs, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient entendre, c'est une adéquation de ce généraliste de l'univers et bien comprendre comment ça s'est créé tout ça. Mais après, c'est rentrer dans les détails, on va rentrer dans des détails techniques et ce serait un peu plus embêtant. Voilà.
Juste une petite question. Ces quatre forces, elles proviennent d'où ?
Elles proviennent d'une seule et même force unifiée. C'est pour ça qu'on appelle ça l'unification des quatre forces et on a créé une équation mathématique pour pouvoir calculer ce genre de choses, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant parce qu'on a simplement réussi à mélanger la force-force et la force faible et la force électromagnétique, qui sont deux forces qu'on appelle, qui, une fois mélangées, sont électrofaibles. Mais on n'arrive pas à rassembler les quatre forces avec une équation mathématique et c'est très compliqué de rentrer dans ce genre de détails parce qu'il faut être mathématicien pour le faire. Et donc, comment elles se sont créées ? Tout simplement, elles étaient unifiées, mélangées dans une seule et même énergie. Et ensuite, avec le refroidissement de l'univers, elles se sont séparées et ont créé les quatre forces que l'on connaît aujourd'hui.
Mais on est sûr qu'il n'y en a que quatre.
Ah oui, on en est certain.
Certain.
Oui, certain. Oui.
Très bien. Patrice, merci beaucoup pour cette présentation simplifiée de l'univers. Je pense que dans les prochaines émissions, on reviendra sans aucun doute sur certains détails de ce dont on vient de parler. Merci beaucoup et puis donc au mois prochain.
Merci beaucoup, merci.
Radio Bulle et Patrice Javel vous font voyager. La porte des étoiles.